Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Vous êtes-vous déjà fait embêter dans la cour de récréation? Avez-vous eu au contraire une tête de turc? Qui n'a pas une fois dans sa vie été victime, acteur ou témoin plus ou moins passif de la moquerie et de la méchanceté des hommes? On appelle cela un bouc émissaire, une expérience vieille comme le monde que celle de rejeter quelqu'un de différent de soi, de plus petit, de faible. Une expérience qui est en quelque sorte en filigrane des trois films de ce soir. Une expérience difficile, parfois terrible, mais qui peut se révéler pour vous comme pour moi une porte d'entrée de la grâce. Cette émission Vivante Église, donc le grand écran, émission donc cinéma, l'un de nos rendez-vous mensuels avec autour du plateau. Ils vont me faire signe si leurs casques sont assez, le son est assez fort dans leurs casques. Paul Dima, accompagnateur de retraite cinéma avec les centres jésuites du sud-ouest Cotopaïs. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Et Louis-Marie Salaire, producteur de l'émission cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas l'ouvreuse, le mercredi à 19h sur Radio Présence. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
À chaque fois j'ai un moment d'hésitation et pourtant je vous écoute parce que je ne suis pas parti à cette heure-ci.
Eh oui.
C'est bon le...
Vous finissez tard.
Alors, trois films aujourd'hui à l'affiche du grand écran. Heureux comme Lazaro, un film d'Alice Rohrwacher. Comment vous prononcez, Louis-Marie ?
Rohrwacher. Et en principe, il faudrait même dire Alice.
Alice Rohrwacher, voilà, facile à dire. Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, chef-d'œuvre humaniste du mois. Et Mouchette de Robert Bresson, chef-d'œuvre spirituel. On va commencer, comme il se doit, avec Heureux comme Lazaro. Et pour ça, on va passer un extrait de la bande-annonce. Alors, c'est un film qui est en italien. Il est projeté en France avec une version sous-titrée. Mais on n'a pas de version française. Peut-être une manière d'introduire cette bande-annonce, c'est que la musique nous met évidemment dans l'ambiance. Quelques dialogues, entre autres d'une femme, on expliquera qui est-elle, une marquise Alfonsina de Luna, qui parle d'un certain jeune paysan, Lazaro, le héros de ce film. On vous traduira après cet extrait.
Lupo non lupo, i capponi mancano. E così, anche per questo mese, il debito aumenta.
Anche questo mese non lo avrò per niente.
Gli esseri umani sono come bestie, animali. Io sfrutto loro, e loro sfruttano quel povero uomo.
Ma magari lui non sfrutta nessuno.
Questo proprio non è possibile.
Voilà, difficile d'aller plus loin. Après, il faut aller voir le film. Et charge à vous donc de nous introduire davantage à ce film. Donc, film à l'affiche, Heureux comme Lazaro. Je vais essayer de résumer le film. Donc, c'est un jeune paysan qui s'appelle Lazaro, qui est d'une bonté, semble-t-il, exceptionnelle, dans un hameau resté à l'écart du monde. C'est en Italie, hein, c'est bien ça ?
Oui.
Voilà, en Italie. Et ce domaine est sous le règne d'une marquise Alfonsina de Luna, voilà, tout le monde est exploité par cette femme, c'est d'ailleurs ce qu'elle dit dans cet extrait, c'est ainsi que le monde marche, il faut exploiter certaines personnes qui elles-mêmes en exploitent d'autres. Et il y a le fils de la marquise, Tancredi, que l'on entend à la fin, et qui a cette phrase qui dit « mais lui, il n'exploite personne », en parlant de Lazaro. Présentez-nous un peu plus l'histoire, Louis-Marie Salaire, de ce film et de ce Lazaro.
Eh bien, pardon, on est... probablement au début des années 90, mais on ne peut pas l'affirmer, perdu dans un hameau du centre de l'Italie, où le temps s'est suspendu, mais littéralement suspendu. Ils sont à un endroit dont ce groupe de paysans sont à un endroit dont ils ne peuvent pas partir, parce qu'on comprendra plus tard qu'ils sont bloqués. Il y a eu une crue qui a détruit le pont et ils ne peuvent pas en partir. Et ils vivent là comme au Moyen-Âge, à savoir ce sont des serfs. Ils n'ont pas de salaire, ils vivent tous entassés dans trois pièces. Ils n'ont même pas assez d'ampoules pour tout éclairer la nuit. Et ils sont au service de cette fameuse marquise qui les fait travailler pour elle et qui les exploite honteusement. Et parmi eux, donc, il y a ce fameux Lazaro qui est gentil avec tout le monde Et Lazzaro, lui, il est même exploité par les autres aussi. D'ailleurs, on l'entend bien dans le morceau de bande-annonce qu'on vient de découvrir, que même les autres passent leur temps à l'appeler. Lazzaro vient ici, fait ci, Lazzaro vient là, fait ça, c'est tout le temps comme ça. Et il ne dit jamais non.
Alors, c'est un film qui a reçu une excellente critique. J'ai vu, en tout cas, il le passe dans la bande-annonce, Le Monde dit merveilleux, de ce qu'il est merveilleux, ce film. Télérama, Lazzaro, un simple d'esprit d'une infinie bonté, imperturbable héros d'une fable sur l'injustice, la servilité, la dignité, aux accents pasoliniens. Bande à part, je ne sais pas si c'est très connu, entre une fable moderne et film politique porté par une réalisation limpide et par la révélation du lumineux Adriano Tardiolo, qui joue donc Lazzaro. Le troisième film d'Alice
Rohrwacker.
Rohrwacker, merci à vous, confirme le talent d'une cinéaste hors norme, rien que ça. Quelle autre introduction vous feriez, Paul, avant qu'on parle un petit peu plus de l'intrigue ?
Ça se situe dans la grande tradition des films italiens qui sont à la fois des contes, très clairement des contes, et en même temps très, très sociaux. Prenant en compte les petits, les exploités, alors avec tout un côté lyrique aussi, un côté conte, fable aussi. Alors ce Lazzaro mort meurt et ressuscite, enfin, ou quasi. Et on le retrouve, il y a une première partie de l'histoire du film, où on voit ces paysans sous la férule de la marquise, de la Luna, et une deuxième partie où ils ont été sauvés, entre guillemets, par la police qui les emmène en ville, et en leur disant « mais vous avez été exploités », et on découvre qu'il y a eu un procès retentissant, etc. Mais ils se retrouvent dans une nouvelle forme d'esclavage.
Oui.
Alors, il y a un personnage, Tancredi, et donc c'est aussi l'histoire d'une amitié entre le fils donc, de la marquise et ce jeune Lazzaro, amitié à la vie, à la mort.
C'est plus que de l'amitié, parce que pour Lazzaro, même quand il parle de Tancredi, il le considère comme son frère. Et il se reprend, il dit son demi-frère, parce que Tancredi, quand il parle de son père, qu'on ne voit pas, qui a dû mourir il y a plusieurs années auparavant, dit que son père était un grand séducteur et qu'il avait dû au hasard abuser d'une des filles de l'exploitation, et il est probablement le père de Lazzaro. C'est pour ça qu'il décide que Lazzaro est son frère, son demi-frère.
Alors pourquoi est-ce un aussi beau film? Vous l'avez choisi parmi d'autres, hein, comme toujours pour donc Ciné-Parole, ce ciné-club donc en lien avec le cinéma L'ABC à Toulouse. On parlera donc des deux diffusions donc qui sont mardi prochain à la fin de chaque partie, à la fin de l'émission. Il y a, semble-t-il, au dire en plus des critiques, hein, vraiment une poésie dans les films de cette Alice au nom imprononçable Rohrwacker. Deux autres films qu'elle avait déjà sorti, enfin trois autres, mais deux plus connus, Corpo Céleste, c'était en 2011, et un autre, Les Merveilles, en 2014, avec toujours, pour le peu que j'ai vu, une grande poésie, justement, un film, on a l'impression que c'est un mélange de films, de documentaires, de contes poétiques.
Il n'y a pas de documentaire. Hein. On est effectivement, comme le disait Paul, dans cette grande tradition du cinéma italien. Ces grands noms comme Olmi, les frères Taviani, c'est-à-dire que l'arbre au sabot, on pense à l'arbre au sabot d'Olmi, c'est qu'on est au plus près du peuple, là, en tout cas des paysans et de cette condition misérable, mais on ne le traite pas de façon misérable. C'est ça, c'est-à-dire qu'on voit des gens qui évoluent, ils ont toujours les mêmes vêtements sur le dos, ils sont les uns sur les autres, ils ont à peine de quoi manger, ils ne sont pas payés, exploités. Mais finalement, il y a quelque chose qui les traverse, qui les transperce tous ensemble. Et cette vie a quelque chose de supérieur, quoi. Quelque chose qui fait que Lazzaro, finalement, y est pour quelque chose. Et c'est comme ça que je parlais de cette tradition italienne. C'est-à-dire qu'il y a ce personnage qui va transcender tout le reste. qui va traverser tout le film.
J'ai presque pensé un peu, enfin je sais pas si la comparaison est heureuse, mais on avait parlé récemment de La Strada de Fellini, oui. Hein, avec un personnage qui vient sauver une tragédie quelque part.
C'est ça.
Oui. On retrouve un peu cette même veine, et là ce Lazzaro est pris par, après sa résurrection, les paysans tombent à genoux devant lui, et lui aussi s'agenouille, parce qu'il voit pas trop pourquoi il mériterait qu'on s'agenouille devant lui. Et alors, Lazzaro, c'est Lazare, mort et ressuscité. Et c'est aussi, il y a plusieurs scènes où on voit un loup, quand il est... mort ou donné comme mort, le loup vient auprès de lui et ne le mange pas, parce que cet homme sent bon, sent la bonté. Et le loup...
C'est pensé au loup de Gubbio, le loup
absolument,
de Saint-François d'Assise.
Absolument, il y a des références explicites à Saint-François.
Voilà, loup qui, soi-disant, avait été apprivoisé par... dit la tradition ou autre, apprivoisé par Saint-François d'Assise.
Et alors, ce Lazzaro... Qui se fait un peu mener par le bout du nez, mais qui n'est jamais dans la violence, lui.
Jamais.
Jamais, jamais. Jamais. Et à la fin, il est victime, lui, de la violence. Il y a un rôle quasi christique. À la fin, il va dans la banque parce que la comtesse a été condamnée, elle a dû verser des sommes colossales. Et puis, son fils a été dépouillé de ça parce que les banques se sont emparées de l'argent. Et Lazzaro va, à la fin de ses pérégrinations, il retrouve Tancredi, et il va à la banque pour réclamer l'argent pour Tancredi, pas pour lui. Et les gens croient que c'est un hold-up, tout le monde lève les mains, et puis il découvre qu'il n'a pas d'arme sur lui, et tout le monde se jette sur lui, et il le tue.
Heureux comme Lazzaro, donc d'Alice Rohrwacher, Alice Rohrwacher, donc c'est un film à l'affiche, à retrouver donc à l'occasion donc du Ciné-Parole, c'est mardi prochain, deux séances, 14h30, 20h30, pour rappel, vous retrouvez l'après-midi Paul Dima et le soir Louis-Marie Seller, vous regardez le film avec d'autres et à la fin vous en parlez pour que ce film rentre un peu plus profondément dans votre cœur, allez-y, hein. Ils me disent de temps en temps qu'ils seraient heureux d'avoir encore plus de monde pour ce beau film qui, on ne l'a pas dit, a été ex aequo pour le prix du scénario du Festival de Cannes 2018, n'est-ce pas, Marc Soler ?
Comme le précédent film d'Alice Rohrwacher avait été lui aussi récompensé à Cannes.
Alice Rohrwacher, allez, je l'ai, merci beaucoup. On va faire une première pause et puis on va parler de notre chef-d'œuvre. Donc, dit humaniste du mois, voilà que je l'oublie, Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, ce matin, donc le grand écran, émission cinéma mensuelle, avec Paul Dima, accompagnateur de retraite cinéma avec les centres jésuites du sud-ouest Cotopaïs, et Louis-Marie Soler, producteur de N'oubliez pas l'ouvreuse, émission de cinéma le mercredi à 19h sur cette même antenne. Tous deux animateurs donc de ce ciné-parole en lien avec le cinéma l'ABC à Toulouse. Il faudra faire des petits un jour de ce ciné-parole, faire un ciné-parole à Rodez, faire un ciné-parole à Cahors, faire un ciné-parole... Hein, à Hoche, hein,
pourquoi pas,
que vos éditeurs vous entendent.
Voilà, on diffuse dans la région, donc si dans votre région vous voulez monter un ciné-parole, et bien vous appelez Radio Présence et peut-être que quelque chose naîtra de cette proposition. Deuxième film donc, Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, film donc sorti en 1957, inspiré d'un livre d'un certain Humphrey Cobb, paru en 1935, qui prend quelques libertés avec ce livre, semble-t-il. C'est un film donc sur la Première Guerre mondiale, film assez original, l'un des premiers films, si j'ai bien compris, de Stanley Kubrick. Louis-Marie Soler, vous confirmez ?
Quatrième.
Quatrième. C'est l'histoire, et après on va écouter un premier extrait. On va dire qui est au cœur de l'histoire, peut-être du colonel Dax. Donc c'est le front français. Un certain général Bouroulard demande à un autre général Miro, qu'on va entendre dans quelques instants, de donner un assaut impossible, de demander aux forces françaises de prendre un lieu appelé la Fourmilière. Rien que de voir les images, on se dit qu'ils vont au carnage. Et le carnage, c'est quand même grosso modo la ligne de fond de cette Première Guerre mondiale. Et le colonel Dax est censé donner la charge. On va écouter ce premier extrait où on entend le général Miro passant dans les troupes. Film évidemment très bien choisi en cette période de commémoration de la Première Guerre mondiale.
Alors, mon brave, prêt à tuer beaucoup d'Allemands ?
Oui, mon général.
Votre nom, soldat ?
Deuxième classe Férol, mon général.
Ah, vous êtes marié, soldat Férol ?
Non, mon général.
Eh bien, je parie que votre mère est fière de vous.
Oui, mon général. Merci, mon général.
Alors, mon brave, prêt à tuer beaucoup d'Allemands ? Est-ce que vous vous sentez bien, soldat ?
Qui, moi ? Oui, je me sens bien.
Vous êtes marié, soldat ?
Marié ? Moi, marié ?
Oui, vous avez une femme ?
Une femme ? Moi, une femme ?
Il a été commotionné, mon général.
Dites pas de sottises, sergent. Être commotionné, ça n'existe pas. Avez-vous une femme, soldat ?
Moi, une femme ? Ma femme ? Oui, j'ai une femme. Jamais je ne la reverrai. Je vais te tuer.
Allons, un peu de cran, vous vous conduisez comme un lâche.
Je suis un lâche, moi.
Secouez-vous, soldat ! Sergent, veillez à donner des ordres pour débarrasser mon régiment de cette poule mouillée. Je ne veux pas que les autres hommes soient contaminés par lui.
Bien, mon général.
Exécution, sergent.
C'est toujours un plaisir de vous voir, colonel.
Très honoré, mon général.
Tout l'honneur est pour moi, croyez-le. Voyons, soyons sérieux. Si un homme est une femmelette, et qu'il se mette en jupon et se cache sous le lit. Mais s'il veut être un soldat, bonté divine, qu'il se comporte comme tel. Il faut qu'il se batte. Et il ne peut le faire que s'il est là où se livre la bataille. C'est mon credo.
Il faut bien que je sois d'accord, mon général. Vous présentez la chose avec tant de conviction.
Votre vie a été conforme à ces principes, mon général.
Vous souhaitez sans doute jeter un coup d'œil aux alentours.
Oui, colonel.
Ah, ceci est intéressant. La côte 110. La meilleure vue qu'on puisse obtenir à moins d'être sur place.
Ce qui ne saurait tarder, n'est-ce pas ? Ah. Ce n'est pas un lieu dont on s'empare sans rencontrer de résistance, mais il n'est pas inviolable.
Ce mot est assez étrange.
Comment cela ?
On dirait qu'il s'agit de s'attaquer à la vertu d'une femme.
Ah oui, tout à fait. Vous êtes étincelant ce matin, colonel. Encore plus que d'habitude. Mais ne perdons pas de vue que le colonel était peut-être l'avocat d'assises le plus brillant de France.
Je sais, mon général. Messieurs, vous êtes trop aimable.
Donc voilà, c'est donc le général Miro qui passe en revue ses troupes dans les tranchées et va à la rencontre du colonel Dax pour lui annoncer cette charge impossible. L'action se situe, semble-t-il, en 1916, en pleine période d'enlisement de cette fameuse guerre des tranchées. Le Monde, Les Sentiers de la Gloire magistrale ouvre la voie à Docteur Folamour et à Orange Mécanique, portrait d'une humanité saisie en pleine folie. Les Cahiers du cinéma en retiendra une jolie simplification du trait, surtout un certain rythme martelé très séduisant. séduisant, une rapidité forcenée et, convenons-en, un souffle cinématographique. Voilà, je m'arrêterai là. Louis-Marie, vous qui êtes un des messieurs cinéma, le monsieur cinéma de la radio, comment vous introduiriez ce chef-d'œuvre ?
Eh bien, c'est la volonté qui caractérisait Kubrick à ce moment-là pour monter ce film. Il voulait à tout prix adapter le livre de Humphrey Cobb. Et il avait un mal fou à trouver les financements qu'il a réussi à avoir parce qu'il a été gonflé à l'époque, passez-moi l'expression, puisqu'il était un jeune réalisateur. Il n'avait que 3 films à son actif et les 2 premiers n'avaient pas eu de succès. L'ultime Razzia, le 3e film, est le film qu'il a fait connaître. C'est un film policier, l'histoire d'un casse. Et là, il cherchait une vedette, il a envoyé le script, le scénario à Kirk Douglas et...
Qui joue
le colonel Dax. Et Kirk Douglas lit le scénario, il dit « Ce film fera rien du tout. » Mais rien, il marchera pas du tout, mais il faut le faire. Et c'est grâce à Kirk Douglas qu'il le fera, puisque Kirk Douglas était déjà une grande vedette. Et il a imposé à United Artists de financer le film en les faisant chanter, en leur disant que s'ils ne donnaient pas de l'argent pour faire le film, il ne jouerait pas dans Les Vikings, une très grosse production qui allait se faire avec Tony Curtis, on ne va pas revenir là-dessus. Bon, vous me demandiez si ce film est...
Non, le chef-d'œuvre, je vous poserai la question après.
En tout cas, c'est là... On s'en rendait déjà compte dans L'Ultime Razzia, mais c'est là où on voit toute la maestria, le savoir-faire de Kubrick pour tourner, pour mettre sa caméra où il faut et pour éclairer comme il faut. Il avait un chef de la photographie, mais quand il disait, un chef-op comme on dit maintenant, quand il disait bon, il faut mettre telle focale et mettre la caméra à telle distance, même si le chef opérateur voulait le mettre ailleurs, il la faisait remettre au même endroit, parce qu'il avait une vision de l'image. Et là, dans tout le film, on voit la géométrie des plans, et qui fait que c'est l'enfermement des militaires. Tout est là, dans les prises de vue. Il n'a pas besoin d'en montrer. D'ailleurs, on ne voit pas les Allemands. On voit que les Français. On ne voit jamais la confrontation des deux camps. Et on l'a entendu dans l'extrait, il y a toujours des bruits de coups de feu. Toujours, 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 sans arrêt.
Alors, Paul Dima, on se disait qu'il était bon de souligner que c'est un film qui prend un parti pris singulier pour parler de la Première Guerre mondiale. Il y a eu de nombreux films sur la Première Guerre mondiale. Celui-là est assez original. Pourquoi ?
Oui, c'est un parti pris de montrer que l'institution... militaire et absurde là. Il y a une logique qui est conduite par la soif de progression dégradée et sans aucune préoccupation des soldats ni de la réussite sur le terrain. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, ils savent pertinemment, enfin celui qui donne l'ordre sait pertinemment que la côte est imprenable, mais ça fait rien, il faut y aller. Et en ces temps de commémoration, on entend bien aussi, on rappelle des événements historiques que dénonce le film ici, c'est que de fait, il y a eu de la rébellion, il y a eu de la désertion, l'histoire du film raconte comment ceux qui refusent sont exécutés.
Donc il faut dire que la charge est donnée, mais il y a une partie, je ne sais pas si c'est un régiment, je ne me souviens plus exactement, en tout cas une partie des soldats qui sont censés mener l'assaut contre cette fameuse fourmilière qui reste dans la tranchée. Et il reste dans la tranchée, disent-ils, parce que il n'arrivait pas à sortir tellement il se faisait canarder et tirer comme des lapins. Et leur hiérarchie considère que c'est un acte de rébellion. Et donc derrière s'ensuit un procès. Et on fait l'exemple avec 3 fusillés.
Voilà, c'est ça, fusillés pour l'exemple.
Fusillés pour l'exemple. Et donc il est à noter qu'il y a 2500 soldats français qui ont été condamnés à mort pendant la Première Guerre mondiale, dont 600 furent réellement fusillés. Alors les chiffres sont peut-être à préciser, mais c'est l'ordre de grandeur. Et les autres, leur peine était commuée en travaux forcés. Autre chose à dire, c'est que ça n'est pas complètement une histoire vraie, mais cela se fonde sur des faits réels, en tout cas 2 histoires. J'ai noté, c'est l'affaire des caporaux de Souain. J'espère oui. que que c'est comme ça qu'on prononce, quatre caporaux qui ont été exécutés et qui ont été réhabilités en 1934. Il y a même un, parmi les trois fusillés, en tout cas dans le film, un soldat qui est exécuté alors qu'il est sur une civière, et ça serait un autre, un autre épisode de la Première Guerre mondiale, un certain Jean-Julien Marius Chapelan, qui a été honoré et considéré comme un mort pour la France, et c'était assez récent, puisqu'il a été réhabilité par les autorités françaises, par le délégué aux anciens combattants, c'était en 2012. Mmh. Voilà, donc ça fait partie des absurdités de la guerre. Je propose qu'on écoute un deuxième extrait, qui nous donnera lieu à un autre commentaire. C'est le moment du procès de ces trois soldats qui ont été choisis par hasard pour être fusillés. Vient après ce procès le moment du réquisitoire, on va dire, côté armée et côté soldat, pour faire court, dans ce film.
Messieurs de la cour, ce cas se passe de commentaires. Nous avons tous assisté à la regrettable attaque d'hier matin. Et je prétends que cette attaque est une souillure sur le drapeau français. Elle éclabousse l'honneur de chacun des hommes, femmes et enfants de notre nation. C'est à nous qu'échoit le triste, le désolant, le rebutant devoir de sévir, messieurs. Je demande au tribunal de déclarer les accusés coupables et de leur infliger les sanctions prescrites par le code de justice militaire.
Merci, monsieur le commissaire. Colonel, êtes-vous prêt à plaider?
Messieurs de la cour, il y a des instants où j'ai honte d'appartenir à la race des hommes, et j'en ai ici l'occasion. Il m'est impossible toutefois de résumer les thèses de la défense, vu que la cour ne m'a jamais accordé le temps nécessaire pour présenter mes conclusions.
Est-ce que vous contestez l'objectivité de la cour?
Oui, mon général. Je la conteste car j'ai été empêché de présenter des témoignages d'une importance capitale pour la défense. Le ministère public n'a présenté aucun témoin. Il n'y a pas eu d'acte d'accusation écrit à l'encontre des accusés. Et enfin, je proteste contre le fait qu'aucun procès-verbal des débats n'ait été établi. L'attaque qui a eu lieu hier matin n'entache en rien l'honneur de la France et ne discrédite aucunement les combattants de la nation. Mais ce conseil de guerre, lui, est une honte et un objet de scandale. Le procès fait à ces hommes est un simulacre, une parodie de justice. Messieurs de la cour, déclarer ces hommes coupables sera un crime qui entrera chacun de vous jusqu'à son heure dernière. Je ne puis croire que l'impulsion la plus noble de l'homme, sa compassion pour autrui soit complètement morte en vous. Et humblement, je vous en prie, ayez pitié de ces hommes.
Voilà, donc réquisitoire du colonel Dax qui décide de lui-même...
Non, plaidoirie.
Voilà.
Plaidoirie.
Ah, excusez-moi.
Le réquisitoire, c'est le précédent.
Oui, vous avez raison, pardon. Merci. Du colonel Dax qui donc choisit de défendre ces hommes, joué par Kirk Douglas. Kirk Douglas qui est vraiment, enfin voilà, moi je le connais moins que vous, mais exceptionnel dans ce film.
Ah, dans ce film, il est exceptionnel. C'est évidemment pas sa voix qu'on entend.
Qui est le héros du film, on a l'impression.
Oui.
Et pour autant, la grande délicatesse du film, c'est que c'est le personnage central, mais il ne l'est pas tout à fait. C'est victime innocente en fait qui sont d'abord à l'honneur.
Tout à fait.
Je parlais tout à l'heure de la qualité de la mise en image de Stanley Kubrick, justement pendant ce procès, c'est là où on peut le mesurer aussi. Il a décidé de tourner de façon assez audacieuse, il utilise un grand angle, ça fait que ça déforme toutes les perspectives. Le sol, lui, c'est un dallage à damier. Donc ça accentue, donc ça écrase tout, ça fait...
C'est la salle du procès,
ce qui fait que les personnages et les accusés...
Ils paraissent perdus au milieu de l'immensité, c'est ça,
Des pions sur un échiquier, c'est exactement ça, des pions sur un échiquier.
Paul Dima, que dire d'autre sur ce film, un film aussi donc antimilitariste, c'était un peu le prolongement de votre précédente remarque sur ce film sur la Première Guerre mondiale.
Oui, il faut noter d'ailleurs qu'on a pu voir ce film en France à partir des années 75.
Parce qu'il a été...
Alors, il n'a pas été objet de censure de la part du gouvernement français.
Mais pas loin, non,
le gouvernement l'a toujours clamé, mais il était bien content de ce qui se passe.
Voilà. Ce qui se passait...
À l'époque.
À l'époque, tu peux dire. C'est
non,
la production qui craignait un petit peu la réception de ce film-là et qui ne l'a pas trop promu.
Parce que les anciens combattants français et belges, ça se passait sur le front du côté de la Belgique, donc il y avait des soldats belges, bon, on trouvait que l'image qu'ils donnaient des armées françaises et belges, eh ben, elle n'était pas à leur avantage.
Ben moi, j'ai lu que sous la pression et la menace des représailles d'associations d'anciens combattants le gouvernement français, qui était en plein plongé dans les remous de la guerre d'Algérie, avait protesté et demandé que ce film soit déprogrammé.
Alors voilà, déprogrammé, mais ça ne veut pas dire censuré. Et donc, le
subtile nuance.
Mais oui, c'est une nuance importante parce que finalement...
Vous avez travaillé... Non, j'allais dire une sottise, pardon.
C'est le distributeur qui s'est auto-censuré. Et on a dit, il faut qu'il soit déprogrammé. Maintenant, on ne les a pas mis devant le fait accompli. Alors, effectivement, on joue sur les mots.
Donc,
toujours est-il que le film a été tourné et sorti en 57 et qu'on a
18 ans plus tard.
En 75.
Il y a une double critique dans ce film, à la fois de l'institution militaire, où on voit des gradés plus préoccupés de leur gloire personnelle et de leur avancée dans les grades, et alors que les soldats sont considérés comme juste des données chiffrées, des pions sur un échiquier, comme on vient de le dire au moment du procès. Et puis l'Église aussi. L'institution Église. Il y a la présence du prêtre qui est venu pour administrer les derniers sacrements aux condamnés, qui n'apporte aucun réconfort à ces types qui vont être abattus et qui, voilà, qui sont innocents.
Vous êtes, un peu dur de dire ça, parce qu'au contraire, je trouve que la figure du prêtre est assez valorisée. Et il y en a un qui, par exemple, qui demande à se confesser.
Alors,
et il est pas
forcément... vous avez raison de dire, c'est pas la figure du prêtre qui est attaquée. C'est l'institution... Qui
ne les défend pas.
Qui est systématiquement embarqué dans l'histoire et du côté du pouvoir pour pousser les gens aussi à l'obéissance et la résignation.
On va écouter un troisième extrait, c'est la fin du film, pardon, désolé de dévoiler la fin du film, mais comme vous ne le voyez pas, ça ne déflore pas complètement. Les soldats, donc les trois soldats ont été tués, et d'autres soldats sont dans une espèce de cabaret à improviser. Le colonel Dax les entend siffler joyeusement, et un peu aviné, on peut l'imaginer, et leur est présenté une prisonnière allemande. Voilà, scène, très belle scène.
Messieurs, je vous présente notre dernière conquête sur l'ennemi. Venu d'Allemagne, venu d'Outre-Rhin. Voici, messieurs, une petite perle que le flux de la guerre a fait échouer ici. Mademoiselle a des dons plutôt limités, à ne rien vous cacher, elle n'a absolument aucun talent, excepté, comment dire, un petit talent naturel. Mademoiselle ne sait ni danser, ni raconter d'histoires drôles, ni faire tenir en équilibre des balles sur le petit bout de son nez. Ah, mais elle chante comme à l'opéra, elle a un gosier en or. Allez, vas-y, chante-nous quelque chose, vas-y, chante.
Und als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und hatte seinem Herzliebchen zu. Ach, bitte.
Voilà, c'est une très très belle scène. Moi, ce qui m'a frappé, et je me suis dit à ce moment-là, c'était peut-être pour ça que vous l'aviez choisi comme un chef-d'œuvre, c'est de voir en fait la gueule. C'est vraiment, ils ont des gueules, ces acteurs, hein. Mais c'est soldats, c'est ce qu'on se dit à ce moment-là. Ces visages qui passent, on va dire, de l'excitation la plus totale à
de la moquerie.
À des visages d'enfants, c'est vraiment bouleversant.
Parce alors, que finalement, les soldats, ils chantent avec elle et vont couvrir sa voix.
Alors, pourquoi c'est un chef-d'œuvre, pour finir, pour vous, Louis-Marie ?
Ah ben, y a tout ce qui fait l'essence de Kubrick et du cinéma de Kubrick dans ce film-là, qui était les prémices, puisqu'on est au début de sa carrière. Et cette façon de montrer les choses, c'est sobre et c'est intense à la fois. Y a rien n'est exagéré, rien n'est en trop. Tout est à la mesure de ce qu'il faut montrer. Et c'est ça la grande... On comprend tout, c'est limpide. Son discours est limpide, dramatiquement limpide. C'est-à-dire qu'on est plongé dedans. Ce que disait Paul au début du commentaire en disant que le seul objectif des généraux, enfin des officiers, c'est leur carrière. C'est pour ça qu'ils vont les envoyer, ils les envoient à l'abattoir. Et c'est pas celui du colonel Dax qui, lui, ben, il aura pas de promotion. Il aura trois ou quatre jours de permission et il sera renvoyé au front en première ligne.
Paul, pourquoi est-ce que c'est un chef-d'œuvre ce film à voir, surtout en cette période ?
Parce que c'est un film qui prend le parti des petits, des écrasés. Et qui dénonce à travers cette condamnation un petit peu du fonctionnement de l'armée, bien plus largement. C'est-à-dire qu'il y a des logiques qui, pour des profits personnels, et ici de Gloriole et de tout ça, mais qui peuvent être pour bien d'autres raisons, et c'est intéressant de se rappeler de ça au moment du centième anniversaire de cette guerre atroce. Et il y a d'autres logiques qui sont à l'œuvre, même, quand bien même, ceux qui le défendent sont tués. Les vainqueurs ne sont pas ceux qu'on croit.
Oui, et alors c'est d'actualité parce qu'il dénonce, Kubrick, l'absurdité de la notion de nationalisme, c'est ça?
Oui, hein, complètement.
Et clame son amour de l'être humain, voilà, l'être humain.
Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, c'était donc le chef-d'œuvre humaniste du mois. On va faire une deuxième pause et puis on vous retrouve après pour parler de notre chef-d'œuvre spirituel. Alors un film, très beau film, mais très très dur, Mouchette de Robert Bresson. En tout cas, moi je l'ai trouvé vraiment très très dur, mais qui fait, pour faire écho à mon introduction, qui parle du malheur innocent.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Une émission Vivante Église ce matin, donc le grand écran, émission cinéma, l'un des rendez-vous donc de cette émission, avec pour rappel, pour ceux qui nous prendraient par hasard en cours de route, et pardon pour les autres, Paul Dima, accompagnateur de retraite cinéma avec les centres jésuites du sud-ouest Cotopaïs, et Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas l'ouvreuse, le mercredi pour rappel à 19h. Dernier film donc, Mouchette, de Robert Bresson. Film donc très difficile, enfin moi j'ai trouvé difficile. Alors comment résumer cette ce film où il y a très peu de dialogue, film en noir et blanc qui est sorti en 1967. C'est l'histoire donc d'une... je vais vous laisser présenter le film, Louis-Marie Solaire, parce que là je sens que je suis en train de perdre ma voix, et si je me mets à tousser pendant que je parle, ça va pas être bon.
Oh ben c'est l'histoire d'une adolescente. Maintenant, on dirait une préadolescente, là, 12-13 ans, qui s'appelle Mouchette et qui vit dans une campagne misérable. La condition de vie, la condition de vie de ses parents est misérable. Et elle est témoin d'une dispute entre le garde champêtre et un braconnier, ce qui fera que un peu plus tard, dans la nuit, elle sera violée par le braconnier. En disant ça, on dit tout. Voilà. Après...
Alors si on détaille un tout petit peu, donc Mouchette donc, est l'aînée d'une famille de deux enfants. La mère est malade, elle est alitée,
elle est condamnée.
Le père est alcoolique.
Oui.
Ils sont trois enfants.
Trois.
Il y a un fils donc qui suit son père comme son ombre, y compris quand il faut aller au bistrot.
Oui.
Voilà. Tout ce monde, on ne sait pas s'ils s'aiment, s'ils ne s'aiment pas, mais en tout cas les rapports familiaux sont vraiment, on va dire, rudes. Et Mouchette, peut-être un peu comme Lazzaro, mais différemment, est au milieu de tout ça et essaye de sauver la situation. Elle soigne sa mère, elle donne le biberon au dernier. Né qui est posé presque sur une paillasse dans une maison au bord d'une route.
Ils dorment tous sur une paillasse.
Voilà, presque à l'abandon. Bref, c'est la grande misère. Elle est plus ou moins persécutée à l'école. Il n'y a pas grand monde qui est sympa avec elle. Quoi.
Personne.
Quelques mots sur Robert Bresson. Mouchette, c'est donc, il faut le dire, hein, une adaptation d'un roman
de Georges Bernanos.
Nouvelle histoire de Mouchette. Est-ce que vous pourriez nous en dire l'un ou l'autre quelques mots de cette nouvelle histoire de Mouchette?
Mouchette apparaissait au début d'un autre roman célèbre aussi, Sous le soleil de Satan. Dans le début du roman. Donc la nouvelle histoire de Mouchette arrive après son apparition dans Le Soleil de Satan. À noter que pour Bresson, cette nouvelle adaptation de Bernanos, il avait déjà adapté Bernanos au cinéma, c'était 17 ans plus tôt, le journal d'un curé de campagne. Le fameux journal d'un curé de campagne qui reste aussi un grand film de Bresson. Et c'est le cinéaste de la religion.
Bresson ?
Oui.
Alors on écoute un extrait, puis après peut-être vous nous direz, c'est difficile de mettre des extraits, pardon auprès des auditeurs, parce qu'en fait il n'y a quasiment pas de dialogue. Peut-être pouvez-vous citer quand même la phrase que l'on entend au début du film, Louis-Marie, si vous la retrouvez, la phrase de la mère, sinon je vais vous aider. Vous l'avez retrouvée ?
La mère, on la voit dans l'église tout au début, d'accord. Elle est appuyée contre le mur de l'église, et elle dit d'abord... « Sans moi, que deviendront-ils ?» Une pause assez longue, et elle continue en disant « Ça me tient jusqu'au milieu de la poitrine, on dirait qu'au-dedans, c'est de la pierre. »
Et donc on va écouter un extrait, alors Mouchette est en classe, la classe chante un chant assez singulier, je ne sais pas si on l'entend en entier, mais on précisera du coup, et elle est, on va dire, elle ne chante pas, et la maîtresse la force à chanter en l'amenant au piano, une scène rude et une scène où Mouchette est une fois de plus humiliée.
Trois jours leur dit.
Donc la maîtresse, on va dire, la traîne devant le piano, l'oblige à chanter en lui mettant la tête sur la touche, et Mouchette n'y arrivant pas, se relève et on la voit pleurer. C'est presque, enfin, elle parle pas souvent, mais par contre, elle a souvent des grosses larmes qui coulent sur les joues. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus dans ces cas-là Robert Bresson, ce cinéaste, vous disiez, cinéaste du sacré, c'est ça que vous disiez?
Oui, c'est ça, du sacré. C'est sans doute le réalisateur français qui l'a le mieux mis en scène. Et il reste une référence pour tous les cinéastes du monde entier. Il est, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est un monument. Le grand cinéaste russe Andrei Tarkovsky l'admirait, oui. Disait de lui qu'il était son modèle.
Il disait que ce film avait un véritable pouvoir de fascination.
Celui-ci-là en particulier, et il rangeait Bresson dans la catégorie des grands artistes, aux côtés de Mozart. Il n'avait pas peur des comparaisons. Et c'est vrai que Bresson a une maîtrise dans la mise en scène. Et alors, lui aussi, il savait très bien ce vers quoi il voulait aller, et il était d'une précision pratiquement clinique.
Tarkovsky qui disait aussi à propos de ce film, mais je suis certain que dans plusieurs décades, ce film sera toujours aussi bouleversant qu'au premier jour. Comment vous le présenteriez, enfin, davantage, Paul Dima? C'est une tragédie sociale, mais plus que ça?
Ah, c'est plus que ça. Mouchette, c'est un petit animal qu'on écrase. D'ailleurs, le mot mouchette, c'est la petite mèche de la bougie qu'on éteint, il n'y a plus de flamme, il n'y a plus rien. Et cette mouchette, elle est emmurée dans un contexte social et de violence retournée contre elle, y compris par une partie de la communauté bien pensante qui lui donne des vêtements pour s'habiller, tout ça, mais dans le mépris. Donc elle est moins que rien. Et elle est violée, mais elle est déjà violée par le regard des gens et l'attitude des personnes. C'est-à-dire que le viol qu'elle subit n'est que elle se momme de tout ce rejet où elle est considérée comme un objet qu'on prend, qu'on jette. Et là, il y a quelque chose de tragique. Et Bresson, en fait, accède dans cette histoire-là au spirituel. Parce que...
Je vous propose qu'on écoute le deuxième extrait.
D'accord.
Peut-être que du coup, vous le commenterez. C'est donc la scène finale du film. Cet enfant, hein, cette jeune fille, ou adolescente prépubère, peu importe, comme disait Louis-Marie, elle craque et elle se suicide. On vient de lui offrir une robe. C'est peut-être fait partie des quelques gestes de bonté qu'on a à son égard. Elle s'enroule dans une robe qui pourrait être une robe de première communiante ou une robe de princesse. Je ne sais pas exactement. Enfin, en tout cas, ça peut être les deux. Et elle roule et elle roule et elle roule jusqu'à s'étourdir. Et jusqu'au drame, on entend qu'elle roule derrière la musique, et la musique a quelque importance. Vous nous direz après. Paul, donc ça peut introduire davantage votre propos.
Alors la musique qu'on entend à la fin se situe au moment où Mouchette, dans son étourdissement, parce qu'elle tourne sur elle-même et tombe dans l'herbe, elle roule, et on ne la voit pas tomber dans l'eau. On voit les cercles, les ondes qui se propagent, et à ce moment-là, la musique de Monteverdi, le Magnificat, répond du ciel au drame vécu par Mouchette.
Il faut dire ce que c'est qu'un Magnificat, peut-être aussi.
C'est le chant de
la réponse de la Vierge.
De la Vierge.
Voilà.
Hein, et cette Mouchette qui a été violée, que tout le monde rejette et sur laquelle s'abattent un peu tous les malheurs du monde, rejetés de tous, eh bien le ciel l'accueille, dit Bresson. Et il est fidèle en ce sens au roman de Bernanos. Et la dimension spirituelle, elle tient en ce point que Bresson nous oblige à avoir pitié de cette jeune fille.
On me disait en préparant l'émission à se positionner même.
À se positionner, c'est-à-dire
à ce malheur innocent.
Il vient dire, est-ce que votre cœur est de pierre ou est-ce que vous avez miséricorde pour cette petite, et comme on disait, et que Dieu lui fasse miséricorde. Eh bien, est-ce que nous, on est aussi dans ce chemin de miséricorde et non pas de jugement? Parce que les bien-pensants disent, en plus, elle se suicide. Et en fait, dans la scène du film, c'est plus complexe. Il y a un tracteur qui passe, elle fait signe pour montrer son désespoir.
Et on ne sait pas s'il la voit, d'ailleurs.
On ne sait pas. Il n'y a pas d'accusation, mais le tracteur part. Et à ce moment-là, elle se met à tournoyer sur elle-même. Elle tombe, et elle tombe dans la rivière. Et Monteverdi dit, et la réponse du ciel.
Voilà, ça me fait penser à, on l'a dit en long, en large et en travers, lors de cette année de la miséricorde, ce qui avait été proclamé par le pape François. La signification de la miséricorde, c'est Dieu qui se penche sur la misère et qui a des entrailles de mère. Merci beaucoup d'être venu ce matin au micro de Vivante Église pour nous parler donc de ces trois films, Heureux comme Lazaro de
Alice Rohrwacker.
Voilà, qui est donc à l'affiche et que vous pourrez retrouver donc dans le Ciné Parole en lien avec le cinéma à l'ABC mardi prochain, deux séances, 14h30 avec discussion à la fin avec Paul Dima et 20h30 avec Louis-Marie Soler. Mardi 13, 14h30, 20h30, cinéma l'ABC à Toulouse. Et Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick et Mouchette de Robert Bresson. Merci beaucoup à vous d'être fidèles au poste. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.